Bonjour cher Emmanuel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Sommes-nous libres d'aller contre notre destin ? Notre sort est-il joué de toute éternité ? Si oui, à quoi bon se lever le matin ? Sinon, pourquoi cette impression souvent que les étoiles sont contre nous ? Elle est en route sur les chemins de la philosophie, à la recherche de la bonne étoile.
T'es rien, juste une poussière dans un système solaire, une chose mystérieuse. C'est rien, on est tous un peu flous, pas sûrs de nous du tout, dans la nébuleuse. Mais ce soir, en regardant les étoiles, j'ai vu dans le ciel quelque chose qui brille.
Bonjour Christelle Veillard.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Le destin est-il l'autre nom de la bonne étoile ou de la mauvaise étoile, comme le chante M ?
Alors on peut le présenter comme ça, dans la mesure où effectivement le destin correspond chez les stoïciens à l'enchaînement général des causes et des effets. Et il correspond également à l'ordre du monde, et en particulier à l'ordre cosmique et aussi astrologique. Donc la position des planètes et les configurations de planètes sous lesquelles nous sommes nés, donc, sont censées aussi retentir finalement sur nos destins individuels, dans la mesure où justement dans le monde stoïcien, les événements célestes et les événements terrestres sont connectés les uns aux autres. Et il n'y a pas de raison, justement, de penser une déconnexion entre les deux ordres, entre les deux sphères.
J'étais à des années-lumière de penser qu'un jour je pourrais lui plaire. Somme si de ce désir qui manque.
La belle étoile dans le ciel et le désir en moi, on n'est pas très loin du stoïcisme en tout cas. Vous êtes maître de conférences en philosophie antique à l'Université Paris-Nanterre, l'auteur d'un livre sur les stoïciens appelé « Une philosophie de l'exigence » aux éditions Ellipse. Et juste en vous entendant parler d'astrologie, on est bien loin de l'idée qu'on se fait du stoïcisme qui serait cette doctrine, vous le dites d'ailleurs, et cette exigence à l'égard de soi, essayer de se blinder pour ne pas dépendre des événements extérieurs. L'astrologie, c'est exactement l'inverse, non ?
Alors, telle qu'on la conçoit à présent, en effet, l'astrologie est une espèce de divagation mystérieuse qui met en rapport des événements qui n'ont pas du tout de rapport les uns avec les autres. Dans le système stoïcien, au contraire, l'astrologie est une science, c'est justement le logos qui porte sur les astres. Et on peut avoir une description correcte de ce qui se passe au niveau des astres et de la connexion qui existe entre les astres, les positions des planètes, et puis les événements qui se passent sur Terre. Tout simplement, les stoïciens se disaient que puisque la Lune a une influence manifeste sur la mer, par le phénomène des marées, il n'y a pas de raison que les hommes, qui habitent aussi cette terre au même titre finalement que la mer, ne ressentent pas d'une certaine façon l'influence des planètes dans leurs existences. Alors ce sont des arguments qui sont utilisés de manière assez précautionneuse, et certains stoïciens finalement finiront par abandonner ce genre d'argument, en disant que même si cette connexion existe, on ne peut pas en déterminer exactement la teneur, et du coup il est très étrange de s'y rapporter en tout cas pour la conduite de sa propre vie. Alors effectivement, la vraie différence qui existe avec l'astrologie moderne par ailleurs, c'est une différence pratique, à savoir on ne cherche jamais à connaître à l'avance son destin pour changer quelque chose à ce qui va se produire, mais on cherche à connaître éventuellement ce qui va se produire pour mieux pouvoir s'y conformer et pour mieux accepter justement ce qui va se produire.
Qu'entendent les stoïciens par destin ? Déjà, à quel terme renvoie-t-il ? Et est-ce qu'on peut l'entendre, comme vous venez de le dire, comme un réservoir d'événements qui nous attend et que l'on pourrait connaître si nous avions le don, disons, de voyance ?
Alors, au sens strict, le destin, c'est l'un des noms que prend le dieu, c'est-à-dire le principe organisateur du monde, lorsqu'il se déploie dans les séries causales. Donc, le destin, c'est l'enchaînement séquentiel des êtres, selon la définition, ou bien la raison qui préside à l'administration du monde.
Donc, c'est pas la même chose, donc c'est deux choses différentes.
Alors, ouais. C'est-à-dire, ce sont les deux faces du dieu. Le dieu, sous son aspect de force productive, disons, de tous les êtres, et puis sous son aspect de finalité ou de raison d'être, la raison pour laquelle tous les êtres sont mis en place à l'intérieur du monde. Ce qu'il faut, finalement, la manière la plus facile de comprendre, c'est de revenir à la définition du dieu comme germe. Le dieu est un germe qui se déploie et qui, justement, va déployer tous ses effets de manière absolument nécessaire. Comme lorsque vous avez une graine d'abricotier, par exemple, vous avez forcément un arbre qui se déploie avec tel type de feuilles et tel type de fruits. Le dieu se conçoit de cette manière-là, comme un germe qui contient en lui à la fois la raison d'être du monde et tous les événements qui composent le monde.
Pourtant, les dieux grecs donnent l'impression d'être plus libres que ce que vous décrivez. Les descriptions des dieux sont au contraire des êtres assez humains, faits de colère, de passion, de doute et d'interrogation.
Alors, le dieu stoïcien, effectivement, ne correspond pas du tout à cette définition-là. D'abord, c'est un principe physique, donc un principe impersonnel. C'est un souffle chaud ou un principe organisateur.
Donc, ce n'est pas du tout les dieux grecs tels qu'on les imagine, tels qu'ils sont décrits par Homère, par exemple.
Pas du tout, exactement. Alors, si les stoïciens reprennent les noms des dieux, par exemple Zeus, Athéna, etc., c'est pour dire que ce sont des différents noms qui sont utilisés pour décrire différentes facettes de ce souffle organisateur, selon qu'il se fait air, selon qu'il se fait mer, selon qu'il se fait soleil, etc. Mais alors, de fait, puisque c'est un principe physique, le dieu stoïcien est enchaîné à sa propre loi. Donc il est absolument contraint par sa propre nécessité.
Il est synonyme de nature, en d'autres termes.
Exactement. C'est Dieu ou bien le cosmos ou bien la nature.
On va entendre un extrait tout de suite ensemble d'un texte de Sénèque qui fait partie des stoïciens. Avant cela, précisons que les stoïciens, vous parlez du dieu stoïcien et des stoïciens. Les stoïciens ne parlent pas forcément au nom d'une école ou même d'un seul maître. On distingue trois stoïcismes dans l'Antiquité. Peut-être pouvez-vous nous les distinguer avant qu'on entende ce texte de Sénèque pour nous dire auquel il appartient.
Alors, classiquement, on pense d'abord à un stoïcisme ancien, c'est-à-dire le stoïcisme des fondateurs, Zénon et Chrysippe. Ensuite, on a une période que moi j'appelle la période intermédiaire, donc qui correspond à, disons, le deuxième siècle avant Jésus-Christ, le premier siècle après. Et ensuite, on a un stoïcisme impérial, c'est-à-dire Sénèque, Épictète, Marc Aurèle.
Qui est le plus connu ?
Qui est le plus connu, effectivement, puisqu'il est celui pour lequel nous avons le plus de textes continus. Donc, pour tout ce qui concerne le stoïcisme ancien et la période intermédiaire, on a des fragments d'œuvres, mais pas de textes véritablement continus.
Et le stoïcisme dit impérial est aussi celui qui avait la réputation d'être la philosophie du pouvoir en place.
Alors, c'est vrai que ce sont à ce moment-là que l'articulation entre la philosophie et la politique se fait la plus importante, mais sans doute aussi parce que les représentants stoïciens ont les mains vraiment dans le pouvoir politique. Sénèque et Marc Aurèle, bien sûr, justement, ont à faire fonctionner ensemble leurs principes philosophiques et puis leurs objectifs politiques ou pédagogiques, dans la mesure où ils sont aussi soit princes, soit conseillers des princes. Alors, pour revenir à votre question sur le destin, la théorie du destin, elle est attestée dès l'ancien stoïcisme. Et on a des arguments sous la plume de Chrysippe, c'est-à-dire le troisième scolarque du stoïcisme, qui sont les plus élaborés en réalité. Donc, cette théorie, elle est chrysippéenne d'abord.
On va entendre un texte de Sénèque, non pas de Chrysippe, Sénèque que j'annonçais tout à l'heure. Vous disiez, enfin vous nous avez présenté ce stoïcisme impérial en montrant les liens directs avec le pouvoir et donc avec une application pratique. Et pourtant, la définition du destin qu'il semble proposer dans ce texte semble relever de la logique, comme si le destin, vous parlez de causalité, était d'abord un problème de logique. Écoutez.
Nos destins nous mènent. Et la première heure de notre naissance a réglé tout le temps qui nous reste à vivre. Une cause dépend d'une autre cause. Un ordre de choses éternel détermine la vie privée et la vie publique. C'est pourquoi il faut tout supporter avec courage. C'est que rien ne survient par hasard, comme nous le croyons. Tout vient à son heure. Avant le temps, a été décidé ce qui te réjouit ou te fait pleurer. Et bien que la vie de chaque homme se colore en apparence de grandes variétés qui les distinguent, le tout se résume au même point. Passager. Nous avons reçu des biens passagers. Pourquoi donc s'indigner ainsi? De quoi nous plaignons-nous? Nous sommes nés pour cela. Que la nature use comme elle veut de corps qui sont à elle. Pour nous, toujours joyeux et courageux, pensons que rien ne périt de ce qui est vraiment à nous. Qu'est-ce qui appartient à l'homme de bien? C'est de s'offrir au destin. Des caractères paresseux, enclins au sommeil ou à une veille semblable au sommeil, sont tissés d'éléments inactifs. Pour faire un homme qui mérite le respect, il faut un destin plus puissant. Il n'aura pas devant lui une route unie. Il lui faut sans cesse monter et descendre, se faire balloter par les flots et gouverner sa barque dans une mer agitée. Il lui faut aller à contre-courant de la fortune. Il arrivera bien des passes difficiles et rudes. Il les adoucira et les aplanira de lui-même.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de stoïcisme aujourd'hui, l'idée de destin. Dans le stoïcisme, en compagnie de la philosophe Christelle Veillard, qui est l'auteur d'un ouvrage consacré aux stoïciens intitulé « Une philosophie de l'exigence », publié aux éditions Ellipse. Dans le texte de Sénèque que nous venons d'entendre, lu par le comédien Yvan Moran, on y apprend que « nos destins nous mènent », c'était la première phrase du texte, mais qu'il ne faut pas entendre dans « destin » une intention morale qui déterminerait exactement la direction que nous avons à suivre dans notre vie, mais bien un enchaînement de causes. Une cause dépend d'une autre cause, un ordre de choses éternel détermine la vie privée et la vie publique. Est-ce qu'on ne vide pas la notion destin de son sens, tel que nous le concevons aujourd'hui, en en faisant uniquement un enchaînement de causes matérielles, quasiment, on dirait?
Alors, effectivement, la conception classique du destin, c'est d'abord la part individuelle de vie qui est tissée par les moires ou par les parcs et qui correspondrait à un ensemble d'événements individuels qui nous échoient et auxquels on a à faire face du point de vue de notre responsabilité morale. Le déplacement effectué par les stoïciens consiste à dire que puisque le Dieu est le destin, c'est-à-dire l'ordre et la raison d'être nécessaire et première des choses, alors il faut le concevoir effectivement comme une nécessité logique d'abord, en le vidant de son aspect individualisant, disons, ou bien de son aspect de ensemble des événements individuels qui vont nous arriver, puisque de toute façon, ce que vont dire les stoïciens, c'est que tout ça n'a pas véritablement d'importance. Et ce qui ressort du texte de Sénèque, c'est que quoi qu'il m'arrive, ce qui est important en réalité, c'est la manière dont je vais vivre ces événements-là.
Ça, c'est le deuxième sens du texte, si on va prendre le temps de l'expliquer ensemble. Mais quand même, pourquoi avoir ce mot de destin au pluriel, nos destins nous mènent, alors qu'en fait, ce qui est décrit, c'est du déterminisme?
Alors, En effet, mais justement, le destin, c'est une espèce, c'est de toute façon du déterminisme dans la mesure où on pense que, par exemple, la fin de mon existence est déjà fixée par les parcs ou les moires qui décident d'un seul coup de couper le fil de mon existence. Ça, ça ressortit bien à la conception classique des destins. Mais ce que explique Sénèque, c'est que si l'on revient donc à la définition du destin comme enchaînement des événements, effectivement, cet enchaînement est posé là dès le départ. Donc c'est une causalité logique déterminée, nécessaire, à laquelle il faut faire face.
Et qui est déterminée par des lois physiques.
Tout simplement par le déploiement du germe qu'est le Dieu selon sa propre nécessité. Donc c'est le déploiement de la nature dans sa nécessité naturelle qui fait que l'ordre des choses se met en place de cette façon-là et pas d'une autre.
Dans cet ordre en place, comment l'homme se distingue-t-il des autres êtres vivants ou des autres êtres existants ?
Alors la spécificité humaine consiste à posséder, outre la faculté de se représenter le monde, la faculté d'assentir aux événements, donc de mettre à distance les événements par le biais de cette représentation, et donc d'accepter ou pas, de collaborer, pourrait-on dire, à ce qui se produit et à ce qui éventuellement nous apparaît comme étant injuste. Donc, alors, il y a un texte d'Épictète qui dit les animaux, justement, suivent le destin parce qu'ils sont conduits par leur nature. Bon, c'est une espèce de nécessité automatique qui fait qu'ils sont portés par la chaîne naturelle ou la chaîne des causes. La différence avec l'homme, c'est que lui, il sait qu'il y a une chaîne des causes et il peut mettre à distance cette chaîne des causes en se la représentant par une compréhension intelligible et donc en adhérant ou pas à ce déroulement par sa faculté, justement, de juger des choses et d'assentir à ce qui se produit.
Donc l'homme se distingue du reste de la nature par sa faculté de compréhension, donc peut-être de distance par rapport à ce qui lui arrive pour pouvoir y consentir. Ça demande quand même une connaissance extrêmement grande et forte que d'être en mesure de déterminer les causes qui me déterminent à tel moment donné.
Alors exactement, donc le stoïcisme a pour objectif, par cette théorie du destin, d'appeler à la compréhension des déterminismes, c'est-à-dire d'appeler à la compréhension des nécessités naturelles qui nous meuvent. En gros, l'objectif, c'est d'abandonner l'illusion selon laquelle nous pourrions être précisément un individu absolu, donc absolument délié de toutes les autres causalités naturelles. Donc de faire comme si nous les hommes, parce que nous sommes des hommes, nous ne sommes pas dans la chaîne des causes. La théorie du destin stoïcienne nous rappelle que nous sommes des êtres parfaitement homogènes aux autres êtres du monde, que nous sommes des animaux aussi, qui suivons notre nature animale d'une certaine façon, et qui suivons aussi notre nature d'être rationnel, c'est-à-dire nous possédons une rationalité, donc nous utilisons certaines facultés qui appartiennent à notre nature, et l'objectif, être conforme à soi, disons, c'est comprendre comment nous fonctionnons en tant qu'être naturel et rationnel et apprendre à mieux utiliser cette nature que nous avons comprise.
Mais pourquoi le faudrait-il ? En fait, là, on en vient à la dimension morale. Si l'homme a sa place dans cet univers, il faut respecter l'ordre en place, se considérer comme homme en tant qu'homme, c'est-à-dire ni un dieu ni autre chose, mais user de sa faculté de raison et de raisonner comme il se doit. Pourquoi revient-il à l'homme, et c'est très fort dans le texte de Sénèque, hein, de s'accepter comme tel. Il y a l'idée que l'homme a presque le destin qu'il mérite.
Alors, pourquoi faut-il s'accepter ? Parce que, alors, pour le coup, on peut renvoyer à Marc Aurèle, qui dit, quand ton... Alors, il dit pas ça comme ça, parce que quand ton réveil sonne le matin, en gros, tu dois te rappeler que tu es un homme et que tu dois te lever pour faire fonction d'homme. Autrement dit, si le Dieu, justement, a mis en place à la fois des animaux et des hommes, et pas seulement des animaux, c'est que les hommes, qui sont dotés d'une faculté supplémentaire qui est la raison, ont une fonction supplémentaire qui est le fait de comprendre l'ordre des choses et d'y participer. Donc, puisque l'homme n'est pas un animal, et puisqu'il a cette faculté supplémentaire qu'est la raison, il doit exercer cette faculté. C'est-à-dire si, sinon, j'aurais une faculté ou un outil que je n'utilise pas, ce qui n'aurait pas de sens. Donc si j'ai la faculté de la rationalité, je ne dois pas rester affalé dans mon fauteuil, à manger et à boire, comme si j'étais un bœuf ou un chat qui passe son temps à dormir. Donc la nature du chat, c'est de passer la plupart du temps à dormir. La nature de l'homme, c'est au contraire d'exercer sa rationalité dans deux domaines. Le domaine de la connaissance, donc comprendre l'ordre du monde, savoir comment ça fonctionne et participer le plus qu'il est possible à ce fonctionnement-là. Et de l'autre côté, se faire une définition de ce qui est juste et bon et faire vivre ces valeurs-là aussi dans le monde. Autrement dit, on pourrait dire presque le monde ne serait pas complet si les hommes n'étaient pas présents pour exercer ces deux facultés-là que sont la connaissance et l'exercice moral.
Donc il y a quand même une intention.
Tout à fait.
Dans la nature, même dans l'idée de destin, c'est pas simplement une causalité déterminée.
Alors tout à fait, ça revient finalement à la définition du Dieu qui est le destin, certes, mais aussi, comme je l'ai dit au départ, la raison d'être de la série causale.
Nous sommes nés pour cela, dit
voilà,
Sénèque.
Nous sommes nés pour cela. Donc le Dieu est aussi une finalité ou une causalité providentielle qui a fabriqué cet ordre selon le meilleur ordre possible et qui donc donne un sens à l'ensemble du monde. Effectivement, les stoïciens partent du principe que le monde doit avoir un sens. Ça n'est pas un chaos ou désordonné ou bien un ensemble dont l'ordre serait dû au hasard. Contrairement aux épicuriens, les stoïciens posent que cet ordre est tellement bien ordonné, justement, est tellement merveilleux que ça doit procéder d'une intelligence qui l'a fabriqué. Et si cette intelligence a exercé son pouvoir intelligent, nécessairement, elle l'a exercé en vue du bien et en fonction du bien.
Là où ça devient passionnant, si on en revient à cette idée de destin, c'est qu'en toute logique, si tout est déterminé de toute éternité, c'est-à-dire indépendamment de l'existence individuelle, si tout quelque part serait écrit, on le dirait ainsi, je ne sais pas si la métaphore est employée par les stoïciens, alors on pourrait connaître le futur.
Alors effectivement, le sage, qui lui a l'intelligence parfaite de l'ordre des choses, est capable, en théorie ou en tout cas, de parcourir la totalité de la causalité à travers le temps, à travers la période cosmique. Et donc, il est capable d'être devin au sens propre, hein, puisqu'il est capable de pratiquer cette science qu'est la divination. Et c'est bien une science, puisque ça consiste à comprendre et connaître la série causale. Donc un sage qui aurait la science parfaite connaîtrait la série causale tout entière, comme le fait le Dieu, et donc pourrait prévoir à l'avance ce qui va se produire. Et d'ailleurs, le Dieu, dans sa providence, nous envoie des signes pour nous indiquer justement les événements qui sont éventuellement à venir pour que nous puissions plus facilement nous y conformer.
On en revient à l'astrologie. Je crois qu'il est temps de faire entrer dans cette discussion une voyante, enfin plutôt une cartomancienne. Écoutez Daniel Roland.
Les cartes pour moi sont un support, comme le serait le marc de café, la boule de verre, les épingles, le sable, le cri de la chouette, etc. Quand j'ai devant moi une patiente ou un patient, je crois qu'ils émettent des ondes de bonheur ou de malheur qu'on arrive très vite à détecter. Le passé se devine aisément, non seulement par le support des cartes, mais surtout par les gestes, le visage, le langage. On comprend tout de suite ce qui intéresse un être et dans quel sens il se dirige. Quant à son avenir, on l'aperçoit d'une façon grossière, certes, mais pourtant il faut bien reconnaître que certains portent en eux le malheur et d'autres le bonheur. La catastrophe est plus facile à voir parce qu'elle est plus fréquente et marque bien plus les individus. Je crois que le présent, le passé, l'avenir, tout cela ce sont de vains mots. Nous sommes bien obligés de les employer puisque nous n'en avons pas d'autres. Mais tout se mêle, tout se confond. Et si l'on a un peu de sensibilité, un petit peu d'intuition, je crois qu'à certains instants, on peut comprendre le passé, expliquer le présent et voir très confusément un tout petit morceau de l'avenir.
À peine avons-nous fait entrer une voyante en studio que le destin frappe à la porte sur France Culture, les chemins de la philosophie. Le destin frappe à la porte, c'est le nom de cette cinquième symphonie de Beethoven, figurez-vous, Christelle Veillard. Donc,
en effet.
Dommage de ne pas la donner à entendre. Alors, je ne vais pas quand même vous demander si vous entendez un héritage stoïcien dans les propos de cette cartomancienne, mais rebondissons quand même sur la dernière partie de ce qu'elle disait, à savoir, mais finalement, en toute logique, avec sa pratique, il n'y a plus lieu de distinguer le passé du présent du futur. Et il me semble que le destin bien compris tel que le conçoivent les stoïciens peut conduire en fait à cette abolition du temps qui ne serait qu'une illusion subjective alors que tout est déjà là de toute éternité.
Alors ça, ce serait vrai effectivement si on avait une espèce de représentation du temps comme étant un cercle. Alors que tout est là de toute éternité et puis tout recommence toujours éternellement comme il était. La différence avec les stoïciens, c'est que si on revient à notre définition du Dieu comme germe, il se déploie selon un sens particulier. Donc d'abord il naît, ensuite il se déploie et ensuite il meurt. Donc on a une direction chronologique tout de même. Donc on a effectivement une circulation possible, vous avez raison de dire qu'il y a une circulation possible entre présent, passé et futur, mais en tout cas on a aussi un sens général qui est donné et pas une abolition totale de ces temps-là. Alors évidemment, effectivement, nous avons des signes qui nous permettent d'interpréter le passé de manière plus exacte. Et nous avons des signes qui nous permettent d'anticiper l'avenir.
La voyante ne dit pas autre chose.
Exactement.
Là.
Mais il y a une conception du temps qui est un petit peu différente. Et puis toujours cette idée de flèche du temps, si on veut, même si le temps n'est pas linéaire. Mais il y a une chronologie à l'intérieur du cercle, on va dire ça comme ça. Alors, ce qui m'intéresse finalement plus dans le témoignage de cette cartomancienne, c'est que, au contraire, ce serait... le contraire des stoïciens. Donc c'est pas une héritière des stoïciens, c'est une espèce d'image inversée. Parce que, donc comme on l'a vu, le destin est d'abord une nécessité logique. Et en cela, les stoïciens parlent contre le destin des superstitieux. Et ils disent « n'importe qui ne peut pas être devin ou cartomancien, n'importe quel expert autoproclamé ne peut pas lire les signes du destin. » Donc il y a une divination qui est technique, qui est réservée au technicien spécialiste qu'est le scientifique de la chaîne des causes, c'est-à-dire le sage. Et en ce sens, tous les devins ou tous les prophètes ou même tous les prêtres classiquement reconnus par les cités pour prédire l'avenir sont disqualifiés dans la mesure où ils n'ont pas une connaissance de la chaîne des causes, ou bien dans la mesure où ils n'ont pas une connaissance droite de ce qu'est le Dieu. C'est-à-dire que s'ils pensent, comme vous l'avez rappelé au début, que les dieux, ce sont les Olympiens qui se comportent de manière complètement arbitraire et violente et passionnée, alors effectivement, ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe dans le monde parce qu'ils ont une notion fausse du Dieu. Le Dieu, c'est le principe impersonnel, la raison d'être logique des choses, et seul le sage, qui a compris cela, peut disposer de cette technicité qu'est la divination pour interpréter correctement les signes.
Et pour aller jusqu'à transposer la catégorie du vrai, enfin l'appliquer au futur. Chrysippe affirme qu'on peut dire quelque chose de vrai sur le futur.
Tout à fait. C'est-à-dire que si...
Pas de probable, mais de vrai.
Si quelque chose est écrit de toute éternité, effectivement, il est vrai de toute éternité. Et il n'est pas simplement possible.
Ce qui est contre-intuitif.
Alors,
pour aller dans mon sens, citons Aristote, par exemple, qui dans l'interprétation, le chapitre 9, dit bien que justement, que c'est le chapitre, on l'a appelé des futurs contingents, où il montre bien que c'est nécessairement que demain, il y aura ou il n'y aura pas de bataille navale, mais ce n'est pas pour autant ni qu'une bataille navale arrive nécessairement demain, ni qu'elle n'arrive pas. Ce qui est nécessaire, c'est qu'elle arrive ou n'arrive pas. Aristote dit bien que oui, il se passera quelque chose, mais on ne peut pas savoir de toute éternité s'il y aura une bataille navale demain ou pas. Quand Chrysippe dit qu'on peut dire quelque chose de vrai sur le futur, est-ce qu'il dit l'inverse ? Est-ce qu'il dit non ? On peut prédire qu'il y aura une bataille navale demain ou pas ?
Alors, ce qu'il dit, je crois, c'est que la position aristotélicienne consiste à considérer les événements comme isolés, comme se produisant ou ne se produisant pas de manière absolue. Par contre, la position stoïcienne rappelle qu'aucun événement ni aucun individu donc n'est jamais isolé ou absolu, mais qu'il est toujours la résultante d'une série causale ou d'un un schéma causal complexe qui le précède et qui va déterminer nécessairement l'apparition de tel ou tel phénomène. Donc si on prend au sérieux la définition du destin comme enchaînement causal, alors on doit aboutir à l'idée que, alors c'est l'exemple de Chrysippe, quand bien même cette pierre, par sa nature même, pourrait être brisée, c'est la possibilité théorique, il n'est pas vrai et il ne sera jamais vrai qu'elle sera brisée du fait de sa circonstance particulière qui est qu'elle est, par exemple, placée au fond de la mer. Donc, on peut dire, cette pierre ne sera jamais brisée, ça c'est un énoncé qui est vrai de toute éternité, quelle que soit la possibilité théorique qui ressortit à sa nature, parce que justement on ne considère pas sa nature de manière isolée, mais toujours dans un certain contexte, avec toute une série de causes qui l'entourent.
Chrysippe prend l'exemple de la pierre, il prend aussi celui du cylindre. Voici l'énoncé de l'argument du cylindre.
De même, dit Chrysippe, que si tu pousses un cylindre de pierre sur un plan fortement incliné, tu as produit la cause et le commencement de son mouvement vers l'avant, mais que bientôt il roule vers l'avant, non plus du fait de ton impulsion, mais du fait que sa forme et sa disposition à rouler sont telles et non autrement. De même, l'ordre, la raison d'être et la nécessité du destin mettent en mouvement les types réels de cause et leur commencement. Mais l'impulsion de notre esprit et nos actions sont contrôlées par notre volonté et notre intellect. C'est pourquoi les pythagoriciens ont raison de dire « apprends que les hommes ont choisi leurs propres troubles », entendant par là que le dommage qu'ils subissent est entre les mains de chacun, et que c'est en suivant leur impulsion, leur propre état d'esprit et leur propre disposition qu'ils font fausse route et subissent du dommage. Pour cette raison, Chrysippe refuse que ceux qui, du fait de leur paresse ou de leur méchanceté, sont nuisibles et irréfléchis, soient tolérés et entendus si, quand on les prend sur le fait, ils se réfugient dans la nécessité du destin, comme si c'était l'asile d'un temple, quand ils disent que les pires de leurs méfaits sont attribuables au destin et non à leur propre méchanceté.
Christelle Veillard, comment comprendre que d'un côté l'homme soit comparé à un cylindre qui est donc déterminé par sa forme, dont l'impulsion première est sans doute extérieure, on pousse un cylindre sur une pente et il suit le mouvement que sa forme lui impose, et que de l'autre, dans le texte que l'on vient d'entendre, il y a une part accordée à notre volonté, notre intellect. Si nous sommes la forme d'un cylindre, notre volonté ne peut rien contre cette forme.
Alors, ça c'est un texte effectivement majeur pour l'argument chrysippéen et pour la défense de la liberté, si l'on veut faire de Chrysippe un défenseur de la liberté. Alors, ce que veut dire l'exemple, c'est d'abord qu'il faut distinguer entre deux types de causes. La cause première, qui est la cause de l'impulsion, qui va commencer le mouvement. Et l'objectif de Chrysippe est de dire que justement, ça n'est pas cette cause-là qui est la cause véritable du mouvement. Donc c'est une cause qui est nécessaire, mais qui n'explique pas la manière dont le cylindre roule. Ce qui explique la manière dont il roule, c'est le deuxième type de cause, qui est ici sa forme cylindrique. Effectivement, si on pousse un cône et pas un cylindre, le cône va rouler un peu en zigzag, tandis que le cylindre, lui, va rouler droit. Donc ce qu'il veut dire d'abord, c'est que ce qui explique la manière dont on roule ou la manière dont on agit, ça n'est pas l'événement extérieur qui va nous pousser, mais c'est la manière dont notre nature va nous permettre d'enclencher un mouvement d'une certaine forme. Donc c'est ce que disait Sénèque tout à l'heure, en disant effectivement, il y a des événements qui m'arrivent, mais ça, ça n'est pas ce qui est le plus important, c'est pas les pichenettes de départ qui sont importantes, c'est ce qu'on en fait de ces pichenettes et le mouvement qu'on va choisir d'adopter. Alors, l'objection, évidemment, c'est mais le cylindre n'a pas choisi sa forme de cylindre et le cône n'a pas choisi sa forme de cône.
Et de même que je n'ai pas choisi mon corps ni mon caractère.
Alors, je n'ai pas choisi mon corps, certes.
Mais je peux choisir mon caractère.
L'objectif est de dire que, c'est la suite du texte qui le dit, l'objectif de Chrysippe est de dire que ta forme de cylindre, c'est toi qui l'as fabriquée, et que nous sommes responsables de la manière dont nous roulons, de la manière dont nous sommes traversés par les événements extérieurs, parce que justement nous ne sommes pas des animaux ou nous ne sommes pas des billes qui pourraient avoir de simples réactions.
Comme les billes de billard, l'exemple.
Voilà. Okay. Si j'étais une bille, c'est-à-dire neutre finalement, on me pousse et je roule en fonction de la manière dont on m'a poussé. Ici, je ne suis pas une bille. Je n'ai pas des réactions, mais je vais avoir des actions au sens plein. C'est-à-dire que je vais pouvoir transformer le mouvement qui m'est transmis en me laissant traverser par lui, mais en lui donnant une forme particulière. Et l'exemple qui était pris par Sénèque, je crois, c'était de dire que certains événements nous arrivent, mais qu'il dépend de nous de les vivre dans la joie et avec courage, ou bien de les vivre en traînant les pieds et en gémissant. Donc ça, c'est notre manière de rouler. Donc, et ça, ça dépend de nous, parce que c'est nous qui formons notre caractère. Alors, il faut, dans le système stoïcien, il faut absolument que notre caractère moral dépende de nous. Sinon, effectivement, toute l'entreprise morale et philosophique, même de manière plus générale, est absolument vaine et inutile.
C'est une autre façon de formuler la rencontre entre l'inné et l'acquis. Nous avons une forme de départ et nous pouvons modeler cette forme, peut-être.
Alors, en tout cas, nous pouvons interpréter la manière dont nous allons vivre les événements et nous pouvons réagir de manière différente. C'est Posidonius qui dit la preuve que notre caractère n'est pas déterminé par le destin, c'est que un même événement qui va frapper un individu à des moments différents n'induira pas le même type de réaction. Ça veut dire que notre caractère, certes, est une donnée, notre corps est une donnée, disons, notre configuration psychologique est une donnée, mais à différents moments, nous allons nous laisser traverser par l'événement de manière différente. Et cette aptitude à se disposer face à l'événement, différemment même par rapport à un même événement ou en fonction du temps, c'est là que réside finalement la liberté de l'individu et la liberté de l'homme. C'est dans sa faculté d'assentir et de se disposer face aux événements.
Et de cette liberté, les stoïciens ont besoin pour contredire l'argument dit du paresseux, ce qu'on entend à la fin du texte, qui consiste à dire, mais si tout est écrit de toute éternité, si ce sont les destins qui nous mènent, alors à quoi bon agir? À quoi bon me lever du lit le matin, puisque de toute façon, je n'ai pas mon mot à dire?
Alors, exactement. Donc, l'argument paresseux, évidemment, consiste à essayer de contrer cette idée que quoi que je fasse, de toute façon, ça ne changera rien. Alors, c'est une erreur, mais ça n'est pas simplement une erreur morale. C'est aussi une erreur de facto, puisque on l'expérimente de manière assez quotidienne. Par exemple, si le métro ne fonctionne pas, ça c'est un événement extérieur qui m'échoit. On peut vivre cet événement de manière très différente. Soit on le prend avec calme et tranquillité, soit on s'énerve et on ruine sa journée. Donc ça, il faut faire une différence entre ce qui arrive au niveau des événements et la manière dont moi je me dispose par rapport aux événements. Et on a toujours l'impression, nous, que ce qui est le plus important, c'est ce qui arrive, c'est-à-dire l'événement. Mais précisément, l'événement ne dépend pas de nous, il nous échoit. Et le retournement stoïcien consiste à dire, il faut que tu comprennes, une fois pour toutes, que ce qui est important, ça n'est pas l'événement, c'est la manière dont toi, tu vas pouvoir l'assumer, le vivre et le transformer éventuellement en quelque chose de joyeux ou de moral, etc.
C'est ce que Gilles Deleuze appelle être digne de l'événement qui arrive. Écoutez.
Accepter l'événement, ça ne veut pas dire du tout se résigner, ça ne veut pas dire du tout dire « Ah mon Dieu, tu as bien fait ». C'est pas ça du tout chez les stoïciens. Une fois qu'ils avaient une idée, c'est pas par hasard que les stoïciens, c'est chez les Grecs les premiers qui font une théorie de l'événement. Et qui la poussent très très loin, leur théorie de l'événement. Or, ce qu'ils veulent dire, c'est précisément ça. Que dans l'événement, il y a quelque chose qu'ils appellent l'incorporel. L'événement à la fois s'effectue dans les corps et n'existe pas s'il ne s'effectue pas dans les corps, mais en lui-même, il contient quelque chose d'incorporel. Ma blessure existait avant moi, je suis né pour l'incarner. C'est-à-dire, oui, elle s'effectue en moi, mais elle contient quelque chose par qui ce n'est plus ma blessure, c'est il blessure. D'où être digne de ce qui nous arrive. Que ce soit de la merde, que ce soit une catastrophe ou que ce soit un grand bonheur. Il y a des gens qui vivent sur le mode, ils sont perpétuellement indignes de ce qui leur arrive. Être digne de ce qui arrive, c'est une idée très curieuse, ou c'est un vécu très très curieux. Ne rien médiocriser.
Ne rien médiocriser, c'est Gilles Deleuze qui le dit dans son cours sur l'anti-Oedipe à Vincennes en 1981. Ma blessure était là avant moi, elle s'est incarnée en moi, ce n'est pas ma blessure, c'est une blessure. Voilà un exemple d'une façon de travailler sur ses représentations, sur son interprétation, plutôt que sur l'événement lui-même. La notion d'en appeler une dignité de l'événement est très forte, là, Christelle Veillard. On est dans un plan supérieur encore.
Alors, oui, précisément, je crois que c'est ce que les stoïciens essayent de nous dire par la théorie du destin, à savoir qu'il faut se décaler par rapport aux événements ou par rapport à ce qui nous arrive. Non pas en neutralisant complètement leur importance, mais en décalant l'importance de la chose en attribuant un sens. Je crois que c'est aussi ce que veut dire Deleuze. Mm-hmm. Il faut attribuer du sens à ce qui arrive. Alors moi, je dirais il faut colorer la manière dont on vit les choses. Et c'est la couleur que l'on donne qui est la plus importante. Et c'est pas finalement la série des actes que nous pourrions accomplir. Donc souvent, on conçoit la liberté comme la faculté de faire X ou Y ou Z. Les stoïciens nous disent c'est pas ça du tout. C'est pas important que tu fasses X, Y ou Z, mais que tu donnes une couleur particulière à ce que tu fais et que tu portes tous ces actes-là en leur imprimant ta marque. Donc effectivement, mettre le sceau de la dignité sur chaque événement, ça c'est le geste qui est fait par les stoïciens.
Mais le terme de dignité présuppose que ce qui nous arrive nous est peut-être supérieur, il faut être à la hauteur de ce qui nous arrive.
Alors tout à fait, et Sénèque dit dans son De Providentia que le destin ne frappe fort que quelqu'un qui est capable de supporter le coup. Donc c'est aussi le signe, lorsque nous sommes frappés, c'est aussi le signe que nous sommes dignes de porter quelque chose de grand qui passe éventuellement par la souffrance, mais qui va faire témoignage de ce qui est le plus important finalement, c'est de témoigner de la grandeur de l'homme ou de la fonction spécifique de l'homme, à savoir porter la vérité et porter le bien. Et c'est ça, c'est ce à quoi nous sommes appelés finalement.
L'homme stoïcien, ou plutôt l'homme tel qu'il est décrit par les stoïciens, est un homme très, très fort, très dur. Il y a peu de place pour la faiblesse, pour la sensibilité, peut-être. Mais
précisément, pour nuancer un petit peu les propos de Deleuze, Marc Aurèle dit « il ne faut jamais juger, en fait ». Et donc, si quelqu'un n'est pas capable maintenant de porter ce qui lui arrive, ou s'il le porte de manière que nous concevons comme étant un peu indigne ou laide, il ne faut pas le juger, il faut l'aider à porter mieux l'événement. Et en tout cas, ne jamais se laisser contaminer par des attitudes qui nous rabaisseraient ou qui nous rendraient moins dignes de ce que nous sommes. Mais en tout cas, il y a l'idée... Alors, on peut effectivement avoir la représentation d'un stoïcisme très élitiste, très dur, qui présente l'homme, le vrai...
Un peu comme, le surhomme, oui, Nietzsche.
Voilà, le surhomme qui va faire face à tout et qui va accepter tout avec vraiment tout dans la joie et le courage. Mais justement, l'injonction aurélienne est très importante, puisqu'il dit... ça, c'est ton travail à toi, parce que tu as compris comment ça fonctionne et que tu dois t'efforcer de rejoindre cet horizon moral, mais ne tombe pas dans un excès ou dans une faute morale qui serait de mépriser l'autre parce que justement, lui n'y arrive pas. Donc, ne jamais juger l'autre parce qu'il ne serait pas à la hauteur. Soit on l'aide, soit on le laisse de côté, mais en tout cas, on ne le méprise pas.
Ce qui découle de manière cohérente avec ce que vous venez de dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de place pour la... Justement, vous dites l'autre, ne pas juger l'autre, mais quelle place pour une pensée qui serait plus politique ou plus collective, en tout cas, dès lors que l'intérêt et l'essentiel consiste à travailler sur nos représentations, à notre interprétation.
Alors, je pense que c'est très important, au contraire, parce que travailler sur ces représentations, ça a, en réalité, l'effet le plus grand sur le monde. Et il ne revient pas au même que quelque chose se passe alors que personne ne proteste, ou que quelque chose se passe et que des hommes de bien s'élèvent pour parler pour le bien et parler pour la vertu. Et le monde est véritablement changé par le fait que certains d'entre nous, ou les sages, sont capables de rappeler que théoriquement, le vrai et le bien doivent primer et que c'est ça qui est le plus important. Donc finalement, d'un point de vue politique, si on réfléchit à la manière dont Sénèque ou Marc Aurèle ont mené leur barque politique, ou bien il y a des tas de stoïciens qui ont été des opposants politiques très importants et qui sont allés jusqu'au sacrifice de leur vie hein, pour défendre leurs idées. Et justement, eux, ils nous rappellent que même s'il y a un tyran qui est aux manettes, eh bien justement... il ne revient pas au même et le monde n'est pas le même s'il n'y a personne pour s'opposer au tyran, c'est-à-dire pour rappeler les valeurs de vérité, de bonté, de moralité, et que justement c'est ça qui est le plus important. Donc travailler sur nos représentations, c'est faire vivre les valeurs aussi. Et c'est faire vivre les valeurs d'abord sur la scène politique pour qu'il y ait une espèce d'effet d'entraînement, pour que tout le monde essaie de se décaler justement, et d'adopter, disons, une attitude stoïcienne.
Donc ici, à l'échelle individuelle, appelé à travailler sur ces représentations, ce serait comme jouer le rôle d'un sage ou d'un modèle, quelqu'un qui donne l'exemple, en fait.
Exactement. Il y a toute une littérature stoïcienne sur les exemples qui sont des exemples politiques ou des exemples moraux. Et c'est pourquoi aussi les stoïciens se suicident de manière aussi théâtrale. Parce que leur objectif, c'est de faire exemple, de frapper les mémoires par-delà le temps, hein, précisément, pour montrer que quand quelque chose d'injuste se produit, justement, je n'assentis pas à ce qui se passe et je fais vivre un autre niveau. C'est-à-dire, le monde n'est pas composé que de la suite des actes X, Y et Z, précisément. Il est composé aussi et essentiellement, puisque nous sommes dans un monde qui est humain et pas dans un monde uniquement physique, il est composé aussi essentiellement de la coloration morale que nous pouvons donner à ces actes.
Et dans cette morale, justement, il y a tout l'espace qui revient uniquement à l'homme. On parle du destin. Ici, quand on lit, par exemple, Épictète qui dit « Tu ne te plaindras jamais, tu ne blâmeras jamais, tu ne flatteras jamais personne », ces injonctions sont commandées par autre chose que par le Dieu, semble-t-il, ou que la nature. Ça vient d'ailleurs, c'est un autre registre.
Alors, ça vient de la faculté que le Dieu a mis en nous, ou en tout cas de la capacité que le Dieu a mis en nous, de comprendre ce qui se passe et d'assentir à ce qui se passe en formulant des valeurs morales et les valeurs de vérité. Donc, effectivement, alors on peut dire le dieu a été prévoyant de sorte que, à l'intérieur d'un certain animal qui s'appelle l'homme, il y a quelque chose de supplémentaire qui s'appelle la faculté de connaître et la faculté d'assentir, qui lui permet justement de faire vivre le monde des valeurs.
Mais est-ce que le but, c'est de faire vivre le monde des valeurs ou de souffrir le moins possible ?
Alors, je crois que le but, quand même, c'est de faire vivre le monde des valeurs, parce que les stoïciens ne sont pas des épicuriens. L'objectif premier, ça n'est pas l'ataraxie ou la tranquillité intérieure. Le stoïcien dit que j'ai un devoir de faire vivre le bien et de promouvoir le bien le plus qu'il est possible. Donc il y a vraiment une tâche ou un appel à la moralité et éventuellement à une moralité universalisable à l'échelle du monde qui n'apparaît pas nécessairement justement dans l'idéal épicurien d'Ataraxie.
L'idéal épicurien en effet qui consiste à suspendre toute forme de douleur et qui accorde au plaisir une certaine place. Est-ce que c'est le cas dans le stoïcisme ?
Alors il y a une place, mais il y a une place disons négative, puisque le plaisir est conçu comme une passion, quelque chose qu'il faut transformer en affectivité positive. Donc le pendant du plaisir, finalement, c'est la joie, donc l'acceptation dans l'allégresse ou dans le contentement de ce qui se produit. Comment dire ? Le plaisir est quelque chose d'un peu suspect, toujours, parce qu'il est une mise en mouvement qui n'est pas nécessairement ordonnée par la rationalité. Donc ce qui doit nous mener, en revanche, c'est un affect, on pourrait dire, un peu plus mesuré, en tout cas mesuré par la rationalité ou mesuré par un jugement droit, qui est le fait de se réjouir de ce qu'il peut y avoir de bon à l'intérieur de nous et à l'intérieur du monde.
Bon, donc se prendre en main, car tel est notre destin, et en même temps, bien, c'est le destin qui commande, Juliette Gréco.
C'est le destin qui commande. Mon pauvre cœur lui demande de ne pas me laisser seule avec ma peine et mon ennui. De me prendre par la main comme un aveugle dans la nuit. J'ai tant besoin d'espérance. J'ai tant connu de souffrance. Je voudrais savoir enfin quel avenir sera le mien. C'est le secret du destin. Vous pensez que c'est arrivé, mais au dernier moment, tout est changé. Vous voyez bien que vous n'êtes rien, rien devant le destin.
Merci beaucoup, Christelle Veillard, d'être venue nous parler du destin chez les stoïciens aujourd'hui.
Merci à vous.
Et de tant d'autres choses. Je renvoie les auditeurs à votre livre, Les Stoïciens, une philosophie de l'exigence, un livre abordable à tous, même si vous ne connaissez rien au stoïcisme, et en plus passionnant parce qu'on apprend beaucoup d'autres choses encore. C'est donc un livre disponible aux éditions Ellipse, sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. C'est incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Quel événement, actualité, livre a retenu votre attention aujourd'hui ?
Eh bien, c'est ce livre « Chose et médium » de Fritz Seider qui a aujourd'hui retenu toute mon attention. Présenté comme l'un des textes fondateurs de la philosophie des médias et des techniques, écrit en 1926 par le psychologue américain d'origine autrichienne Fritz Seider, donc j'avais prévu d'en parler parce qu'il soulève ce problème passionnant en philosophie de l'accès aux choses. Comment avons-nous accès aux choses, aux étoiles par exemple, ou mieux à une âme? Comment se fait le choix du médium pour les atteindre? Et comment sait-on que tel médium est le plus approprié pour donner accès aux choses sans les troubler, les parasiter?
Mais pourquoi avoir choisi d'en parler aujourd'hui précisément?
Eh bien, si j'en parle aujourd'hui de cet ouvrage, c'est parce qu'il résonne avec l'actualité effroyable de ces derniers jours, la violence faite aux femmes, violence vécue, mais tue, et à laquelle rien, aucun médium justement, n'avait jusque-là donné accès, dans toute son ampleur en tout cas, dans toute sa fureur, mais aussi sa banalité et dans tout le dégoût qu'elle doit susciter. Alors je parle bien sûr du hashtag Balance ton porc sur les réseaux sociaux, de l'affaire Harvey Weinstein, ce producteur prédateur hollywoodien, ou encore du choix fait par les Inrock de mettre Bertrand Cantat en une quand on ne rend jamais visibles les femmes violentées, soit un faisceau d'événements qui ont enfin, comme on l'a entendu, je cite, libéré la parole, ce qui était aussi l'enjeu de ce fait qui a eu lieu quelques jours auparavant.
Après l'affaire DSK, au PS, il s'était rien passé, alors que, il n'y a même pas eu de réaction en quelque sorte du parti après l'affaire DSK. Alors que nous, on a mis en place une cellule de lutte contre le harcèlement, contre les violences. Il y a des référents, les personnes peuvent appeler des personnes qui ont été formées pour accueillir la parole, etc. Et donc, si vous voulez, c'est
pour accueillir la parole. Mais qu'est-ce que j'entends? Former pour accueillir la parole. Arrêtez de dire des trucs comme ça, mais c'est fou. Former
pour accueillir le témoignage, je sais pas comment.
Accueillir la parole. Former pour accueillir le... Non mais en effet, vous savez pas comment dire.
On a beaucoup parlé de ce clash entre Sandrine Rousseau, ex-cadre du parti Europe Écologie Les Verts, et l'écrivain Christine Angot, diffusée dans l'émission On n'est pas couché le samedi 30 septembre. Et aujourd'hui, on peut faire un lien entre le fait de libérer la parole, ce qui se produit ces derniers jours, et le projet soutenu par Sandrine Rousseau d'accueillir la parole. Le lien, c'est bien l'enjeu de rendre audible, lisible, accessible par la parole, par des mots et des voix, un état de fait qui était jusque-là resté invisible et impuni. Le lien, c'est donc bien ce médium qu'est la parole. Mais comment envisager cette parole comme médium, c'est-à-dire comme ce qui donne avant tout accès aux choses elles-mêmes, à ces violences? C'était le sens du clash entre Sandrine Rousseau et Christine Angot, mais aussi de cet essai de Fritz Heider. Comment faire pour que le médium ne soit pas qu'un discours creux qui masque les faits, mais une parole qui soit entendue, dévoile les choses et pousse à agir?
En fait, ce que je voudrais dire, c'est que je pensais que c'était pas si grave ce qui m'était arrivé. Et je me rends compte que c'était il y a longtemps. Et je me rends compte que ça m'a beaucoup perturbée et que depuis deux nuits, j'ai plein d'autres souvenirs qui remontent.
Ah.
Que j'avais soigneusement enterré. En fait, d'autres producteurs.
Ah. Asia Argento, Léa Seydoux, Rosanna Arquette, Emma Decaune, pour ne citer qu'elles, mais aussi l'actrice française qu'on vient d'entendre, Florence Darel, toutes ont témoigné des agressions du producteur Harvey Weinstein. Alors, comment faire pour que ces paroles continuent à révéler, à faire remonter à la surface et ne soient pas qu'un flot de paroles dont certains se suffiront? La grande thèse de Fritz Heider dans Choses et médiums est radicale. Pour cela, nous dit-il, les médias se doivent d'être insignifiants, sinon ils parasitent le message, sinon on ne retient que leur transmission et non les choses qu'ils transmettent et qui restent alors à jamais inaccessibles et en l'état. Mais est-ce ici vraiment le cas? Et bien sûrement pas, car ces paroles ne sont pas insignifiantes, elles ne sont pas qu'un médium, elles sont bien des paroles, un message en elles-mêmes, et contre le bruissement des médias qui s'enlisent, on peut au contraire soutenir que la multiplication et le sens de ces paroles est ici, dans ce cas en tout cas, à la mesure de ce qu'elles révèlent et dénoncent.
Bon, on peut créer un nouveau hashtag, hein, Géraldine, hashtag Fritz Heider ou Choses et médiums.
Choses et médiums, on peut aussi acheter le livre, c'est paru chez Vrin, c'est une nouvelle parution, donc Fritz Heider, Choses et médiums.
Merci Géraldine, votre chronique à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Merci à David Pargamin qui a préparé cette émission, Claire Perriman-Holt, Marianne Chassor, vous Géraldine Mossin-Savoie bien sûr, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Anthony Thomasson qui est à la prise de son, Yvan Morane qui prête sa voix au texte cette semaine. Cette semaine sur le destin, et bien demain continue en compagnie du philosophe Alain Singer qui viendra vous parler de Zadig ou la destinée de Voltaire. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous trouverez toutes les indications bibliographiques et musicales. Mais aussi, vous pourrez la réécouter en ligne et même la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter. Nous attendons vos remarques et commentaires. midi, vous retrouverez la grande table d'Olivia Gesbert, mais tout de suite à 11h, il est temps de retrouver Florian Delorme pour son émission Culture Monde.